les passagers du Bosphore. Troisième épisode. Remonter le Bosphore.
J'ai 66
ans. Je pêche depuis l'âge de 11 ans.
Je me lève à 5h
du matin. Après la prière, je viens ici.
Salacak, Üsküdar Salacak.
Ici c'est Üsküdar Salacak.
Benim şeyden sonra Kadıköy diyelim, Kumkapı pardon.
Je fais les trajets d'ici de Kadıköy.
Ondan sonra Boğaz'a kadar.
Jusqu'à Umuryeri et Beykoz.
O havalide gezinirim. Balıkmanın birkaç
pour
şartı
pêcher,
var.
Il y a plusieurs conditions.
Chance,
la chance,
akıl,
l'intelligence,
yetenek,
le talent,
azim,
l'ambition.
Yöre bilgisi olması lazım.
Il faut bien connaître chaque zone de pêche.
Armutlu
comme
var,
Chile,
yani,
Armutlu, Kartal.
Yöre bilgisi şart. Meteoroloji bilgisi lazım.
Il faut connaître la météo, les statistiques.
Devamlılık lazım.
Cela demande de la persévérance.
İyi bir tekne lazım.
Un bon bateau.
İyi olta, ağ var.
Une bonne canne à pêche et un filet parce que je pêche aussi au filet.
Bir de ustalardan ders alman lazım.
Il faut aussi apprendre de ses maîtres.
Ama bunlar
il faut de l'expérience. Il y a donc 21 conditions comme celle-ci, mais elles ne sont valables que s'il y a du poisson, bien sûr. À Istanbul et en Turquie, on trouve du lufer, c'est-à-dire le poisson bleu. Il y a le maquereau, le grondin, le turbo, le bar, le rouget, la bonite. Ce sont les poissons que je pêche. Je consigne tout par écrit, la date et le poisson que je pêche, parce qu'ici il y a des poissons migrateurs. En deux jours, je les trouve et je les attrape. Autrefois, il y avait beaucoup de poissons dans le Bosphore, mais il y a tellement de monde. On est 20 millions ici. Alors on trouve de moins en moins de poissons. Dans les années 1850, un chef indien a déclaré
«
Quand il n'y aura plus de poissons, plus d'arbres, tout votre or ne servira plus à rien. » J'ai deux fils. Ils ne savent pas démarrer le moteur, ils ne savent pas pêcher. Je ne leur ai pas appris pour qu'ils ne deviennent pas comme moi. Personne ne souhaite que son fils soit pêcheur.
Je vais rebondir en utilisant un passage du livre noir d'Orhan Pamuk. Parce que dans les premières pages de ce livre, il imagine ce qu'est devenu une Cadillac noire tombée dans le Bosphore. Et là, il imagine en fait que l'eau a disparu et que c'est donc une vallée, comme au milieu de montagnes. Et il voit toutes les strates d'histoire qui ont sédimenté dans cette vallée. Et donc, il finit par retrouver sa Cadillac noire entourée de squelettes de croisés, après avoir vu des soldats séditieux jetés depuis le palais du sultan et avoir également croisé des soldats britanniques allant à Gallipoli. Donc je pense que ça résume assez bien cette idée de sédimentation et de strates, le poids de l'histoire et je pense qu'on peut tous y trouver quelque chose, que ça aille de la mythologie, des argonautes qui ont eu tellement de mal à franchir ce détroit pour aller en Colchide, jusqu'aux périodes les plus contemporaines et les conflits, la Première Guerre mondiale. Je pense qu'on a tous une histoire partagée en fait avec ce détroit et donc tout le monde peut y trouver une partie de ces fantasmes.
Les riches d'Istanbul avaient à l'époque ce qu'on appelle des yalı. Les yalı, dans les dictionnaires turcs, ont donc comme explication que le mot yazlık, c'est-à-dire maison estivale, avait perdu son Z et que c'était devenu yalı. Mais j'ai des amis grecs qui me disent non, chez Homère déjà, il y a le mot yalios, qui veut dire le bord de la mer.
Ayale est une maison qui se trouve en bord, au bord de l'eau. Ce sont des maisons qui apparaissent surtout à partir de la fin du XVIIe siècle et qui vont surtout se développer au XVIIIe siècle. Ce sont des maisons de villégiature qui sont surtout fréquentées l'été. L'été parce qu'on veut fuir les chaleurs du centre-ville, fuir aussi les incendies et puis les épidémies. Parce qu'il ne faut pas oublier que Constantinople, Istanbul est fréquemment frappé par des épidémies, que ce soit à une époque la peste, mais surtout le choléra qui va perdurer très longtemps jusqu'au XIXe siècle. Et ce sont donc des très belles maisons de plaisance construites en bois, avec une grande ouverture sur la mer. Donc on y accède par un petit débarcadère à bord de ce qu'on appelle des caïques, c'est-à-dire des bateaux à rames. On pouvait même pêcher d'ailleurs. Depuis les Yaleux, les habitants avaient l'habitude de pêcher pour s'amuser. À partir du XIXe siècle, faut savoir que les grands palais des sultans ne s'installent plus sur ce qu'on appelle la péninsule historique, Istanbul, mais vont davantage se construire le long du Bosphore. Il va y avoir un glissement progressif à partir des années 1840, des palais, donc du centre-ville historique, vers le nord. Alors d'abord, dans un premier temps, il va y avoir des petits palais, on va dire plus modestes, notamment à Beşiktaş, et puis un énorme palais qu'on voit encore de nos jours, qui est le palais de Dolmabahçe, qui va être construit dans les années 1850. Le sultan lui-même, il habitait la rive européenne, donc au palais de Dolmabahçe, et donc, à partir des années 1840, il arrive très fréquemment qu'il se rende sur la rive asiatique l'été, dans son palais de Beylerbeyir ou dans d'autres palais qui sont construits le long du Bosphore, donc cette fois-ci sur la rive asiatique. Alors du coup, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'à partir entre le mois de mai et le mois de novembre, si vous vouliez avoir des contacts avec la cour, il fallait quasiment aller sur le Bosphore pour les rencontrer.
Un des plus grands changements d'Istanbul depuis mon enfance, c'est la rarification de toutes les embarcations qu'on voyait avant dans le mer. La Corne d'Or, on avait juste un petit couloir au milieu, sinon c'était couvert des bateaux. Et il y avait une circulation maritime époustouflante. On pouvait traverser en dehors des bateaux avec des barques de l'Europe en Asie, de Corne d'Or, de l'autre. La dernière fois, dans les années, je crois, milieu des années 85, 86 peut-être, il y avait encore deux ou trois barques qui faisaient de mille de nuit. Disons. En fait, le même trajet que le pont. Au lieu de marcher sur le pont, c'était prendre une barque pour une somme dérisoire. Les bateaux en bois, déjà, c'est très rare. Maintenant, la plupart qu'on voit, c'est des plexiglas ou métal, etc. Donc, cet artisanat millénaire, disons, de fabrication des barques a quasiment disparu ou c'est juste cantonné pour le tourisme. Je me souviens, dans les années 90 aussi, il y avait plein de chantiers maritimes qui fabriquaient des chalutiers et des bateaux de pêche sur la mer Noire de type traditionnel.
Et est-ce qu'on peut se baigner à Istanbul ?
Oui.
Oui, on peut se baigner. Mais il faut faire attention.
Il y a plein de méduses, mais en fait, elles piquent pas. Du coup, on peut se baigner quand même.
Il y a aussi le courant, c'est très dangereux par contre. Ouais. Il y a juste des coins où il y a moins de courant. C'est là-bas qu'il vaudrait mieux nager parce qu'il y a beaucoup de gens qui se noient. Et ce sont des gens qui savent nager d'ailleurs.
C'est pas en juillet où il y a une traversée du Bosphore.
Compétition. Ah, ouais. Une compétition. Ouais. Moi, j'ai déjà fait ça 1000 fois.
Oui.
Ouais. Moi, j'ai beaucoup nagé dans le Bosphore, parce qu'il y a une île qui s'appelle île de Galatasaray, qui était donc propriété de l'école, qui ne l'est plus à l'époque, et on avait des cartes bon marché, et, qui n'étaient pas très chères, et on pouvait nager. Et quand on nage là-bas, on sent le courant. Parfois, c'est dangereux, et donc on nous dit toujours, il ne faut pas partir ailleurs longtemps, parce qu'il faut revenir, étant donné que ça remue tout le temps.
Mais avant, on se baignait. Enfin, pas dans le port et tout, mais sous les hauteurs, disons, en Rumilisar, ou après vers Bebek, vers Tarabia et tout. Là-bas, avant, on pouvait. Il y avait des plages. À Sarrière, il y avait des plages juste à la fin, jusqu'à les années 80, je crois, on se baignait. Je me suis baigné, moi, je me souviens.
Se met en place à partir du 19e siècle, surtout après la guerre de Crimée, donc dans les années 1860, des bains. Alors les bains turcs, faut pas imaginer ça comme des grands espaces avec des plots. Non, non, c'était des cabanons en bois qui le plus souvent étaient fabriqués au bout de débarcadères en bois et qui étaient très fermés hein, sur les quatre côtés. Alors certains d'ailleurs disaient que ça ressemblait un peu à des poulaillers parce que les gens donc payaient, rentraient et se baignaient sous la surveillance d'un maître nageur. Bien entendu, ces bains n'étaient pas mixtes. Il y avait une séparation très nette entre les hommes et les femmes. Alors soit c'était le même bain qui certains jours était réservé aux femmes, d'autres jours pour les hommes, ou bien vous aviez deux bains vraiment séparés à une distance suffisante pour permettre aux gens donc de venir pratiquer la natation et se détendre.
Et on se baigne dans le Bosphore ?
Maintenant, non. C'est trop pollué.
C'est quelque chose d'assez intéressant d'avoir une frontière naturelle comme ça qui sépare un pays en deux continents. Et j'aime bien, je suis quelqu'un qui aime jouer des jeux de stratégie et chaque fois que j'y croise, donc j'ai des missions à faire dans le Bosphore, dans les jeux, je comprends l'importance stratégique. Justement, c'est un point, un choke point, et donc c'est quelque chose, un endroit étroit. C'est une porte aussi entre la mer Noire et la mer Méditerranée, donc entre le Moyen-Orient et l'Europe et la Russie aussi. Donc c'est un endroit vraiment, c'est comme une porte internationale pour moi.
C'était un espace très militarisé puisque c'est un espace stratégique et que les conflits entre l'Empire ottoman puis la Turquie et l'Empire russe et la Russie contemporaine ont été très nombreux. Alors, d'un point de vue stratégique, c'est un enjeu majeur pour la Russie. C'est ce qu'on appelle donc l'accès aux mers chaudes. Donc la Russie a besoin d'avoir accès à la Méditerranée.
Et on s'en rend compte avec tous les bateaux qui passent tous les jours, les gros porte-conteneurs super impressionnants qui passent juste devant. Ou même des fois, on peut voir des sous-marins russes.
C'est pour les guerres.
Ouais. Ouais.
Jusqu'au début des années 2000, tout le nord du Bosphore était zone militaire. C'était une zone militaire qui avait été mise en place à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, faut pas oublier que la Turquie fait partie de l'OTAN hein, et a bénéficié aussi du plan Marshall, donc un fort investissement de la part des Américains dans cette lutte pendant la guerre froide. Et d'ailleurs, on disait du Bosphore que c'était les oreilles de l'Amérique. Hein. Parce que toutes les radars, les antennes étaient braquées effectivement sur la mer Noire et sur la Russie. Et donc cette zone militaire, en fait, n'a plus de raison d'être avec les nouvelles technologies actuelles grâce aux satellites et autres. Et ce qui fait qu'elles ont été rendues en quelque sorte aux civils. Et du coup, il y a bien entendu beaucoup de promoteurs immobiliers qui ont profité de l'aubaine pour investir donc dans des territoires qui étaient inoccupés.
En fait, Istanbul, c'est un peu, ils sont remplis de paradoxes et de contradictions. D'un côté, ils sont contents de voir cette ville qui se transforme au quotidien avec des moyens de transport, des nouveaux buildings, de nouvelles constructions, de nouveaux centres commerciaux. Ça leur donne un sentiment de grandeur et de puissance. Et en même temps, depuis quelques années, il y a un sentiment de fatigue par rapport à ces bruits parce qu'ils ne reconnaissent plus la ville, en fait, parce que ça change vite, trop vite.
Surtout depuis 10-15 dernières années, avec toutes les gratte-ciels, des gros buildings, c'est complètement horrible.
Les classes aisées, les classes, les vieux stambouliotes, les gens qui habitent là depuis longtemps, depuis plusieurs générations, qui ont voilà, la possibilité d'habiter dans le centre de la ville, en général, ils sont assez horrifiés. Donc les qualificatifs, c'est l'idée que la ville est défigurée, l'idée que on dénature Istanbul, que ça devient quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce qu'ils connaissaient. Le point de vue de personnes plus modestes ou qui n'avaient pas accès jusqu'à récemment à un certain nombre de loisirs ou de pratiques de consommation est assez différent. Il y a voilà, une certaine fascination pour cette croissance, pour cette modernité, donc les immeubles de grande hauteur, les centres commerciaux. Et du coup, le discours est assez contrasté et là, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de point de rencontre entre ces deux points de vue.
Quand je suis né à Istanbul, la population était 300 000. Quand j'ai fini l'université, c'était 6 millions. Enfin, aujourd'hui, 20 millions. Donc, les derniers 30 ans, c'était une catastrophe, je peux dire, de point de vue et modernisation. Et ça continue.
Alors, la difficulté d'Istanbul, hein, cette capitale monde, hein, comme on l'appelle, c'est qu'elle traîne chaque année une population qui ne cesse d'augmenter. Alors certains l'estiment à 15, d'autres à 20 millions d'habitants, ce qui pose énormément de problèmes d'urbanisation, de développement. Et du coup, ces dernières années, on assiste à des programmes immobiliers considérables sur le Bosphore. Pas uniquement d'ailleurs sur le Bosphore, mais ils sont d'autant plus visibles sur le Bosphore que lorsque vous êtes en tant que touriste, vous voyagez sur un bateau, ou même pour aller d'une rive à l'autre, vous les voyez ces constructions, vous les voyez de plus en plus gagner du terrain. Elles sont faites en plus de façon évidente, souvent en altitude. Hein. Et alors c'est vrai que le phénomène, je pense qu'il s'est accéléré après le tremblement de terre de 1999. Il ne faut pas oublier que le 17 août 1999, il y a eu un terrible tremblement de terre de l'autre côté de la mer de Marmara qui a eu des répercussions sur la rive sud d'Istanbul. Puis avec ce qu'on a entendu, les tsunamis en Asie n'a fait que encourager les gens, si vous voulez, à fuir le sud de la ville. Et du coup, des constructions se sont développées au nord, notamment sur la rive asiatique du Bosphore et du côté de la mer Noire.
La population d'Istanbul croît considérablement et donc avec cette croissance urbaine, forcément, il y a une augmentation des mobilités et donc se rencontrent les mobilités quotidiennes des habitants qui vont tout simplement travailler et dans le même temps, les mobilités à grande distance qui sont les mobilités de transport, par exemple les pétroliers, les méthaniers qui viennent de la mer Noire et qui exportent donc par exemple le gaz russe vers d'autres pays. Donc ce qui est très compliqué dans le Bosphore, c'est cette rencontre entre plusieurs échelles de transport, des transports locaux et des transports internationaux.
On estime même à 43 000 tankers qui seraient passés en 2016. Pour vous donner une idée de la proportion énorme de ces tankers qui malheureusement donc polluent cette mer de Marmara, cette mer intérieure. Donc cette mer qui est donc entre deux détroits, entre le détroit du Bosphore au nord et le détroit des Dardanelles au sud. Et donc cette mer fermée devient de plus en plus polluée.
Maintenant, écologiquement, on doit avoir un plan de sauvetage, aussi de sûreté du Bosphore. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu écologique. C'est un héritage, à mon avis, qui devrait déclarer le patrimoine culturel de l'UNESCO et doit être préservé et interdit au passage de pétroliers, des grands pétroliers, à mon avis.
le Bosphore fait qu'il y a une contamination. C'est aussi ce concept que je voulais employer. Il y a une contamination dans le Bosphore. Une fois qu'on est dedans, on ne peut pas en sortir. Même si vous sortez, vous avez avec vous cette... j'allais dire ce poison, mais c'est un poison doux, cette sorte de usine et de kaif en même temps. C'est un mot arabe, hein, kaif. Kaif, ce n'est pas seulement un plaisir, ça peut avoir un côté, disons, pour employer un mot un peu lourd, masochistique, c'est-à-dire, on peut y aller. Moi, par exemple, je ne peux pas supporter le narguilé. Mais il y a des gens, voilà, du narguilé, on prend un kaif. De la cigarette, on prend un kaif. De l'alcool, on prend un kaif. C'est une jouissance qui inclut une sorte de douleur aussi. Alors que huzun, c'est, enfin, si on traduit bêtement, ça sera la mélancolie, mais c'est encore plus fort parce que c'est quelque chose qu'on peut éprouver devant la fragilité qu'on éprouve, devant la nature ou bien devant soi-même. On sent qu'on est passager, que tout ça ne sera pas éternel. Mais il y a aussi une sorte de jouissance négative dans huzun. On peut se complaire dans son huzun, même quand on a un huzun après avoir perdu un être cher, etc. Parce qu'il y a le verbe huzun lanmek. C'est s'émouvoir avec une sorte de tristesse devant la perte de quelque chose. Ça, donc, c'est lié, huzun est lié à la fragilité. Et jouissance aussi est lié au fait que les sens arrivent à leur limite. Et donc, dans tous les deux, il y a l'idée de perte aussi. Mais cette perte est liée au fait qu'on peut récupérer cette perte justement par la mémoire ou par l'insistance de la kaif ou de huzun.
Mais les deux, en même temps, peuvent être... vivre dans un bateau sur le Bosphore, ça c'est sûr.
Les passagers du Bosphore avec Adem Aba, Ömer Akköseoğlu, Bayram Balcı, Nami Başer, İzzeddin Çalışlar, Cengiz, Ségolène Debar, Ali Erol, Safa Güngör, Frédéric Itzel, Evrim Kavcar, Cansu Koral, Elisabeth Dönümazi, Selçuk Önder, Mesut Soydaner, Mesut Tufan et tous les passagers croisés au fil du Bosphore. Traduction Zeynep Okyay, voix française, Livia Arditi. Prise de son et mixage, Benjamin Thuot. Merci à Frédéric Changenet et Pierrick Charles. Réalisation, Gaël Gillon. Les passagers du Bosphore, une traversée sonore d'Antoine Auger, Anne Kropotkin, Charlotte Roux et Pnali Albé. Coordination, Aurélie Charon et Inès Duperron.